Nous sommes des Spartiates!
Sparte, cité des arts, des armes et des lois.
Dans la Grèce antique, il y avait d'un côté Sparte la guerrière, et il y avait Athènes, celle qui portait la civilisation. Et ce qu'on retiendra de l'histoire, c'est Athènes la glorieuse. Ce n'est pas Sparte la guerrière, parce que c'est celle qui a inventé la culture dans le monde, qui fait que l'humanisme sur lequel nous vivons aujourd'hui est né là-bas avec la démocratie. C'est ce modèle que nous voulons.
Voilà Gérard Collomb, je vous l'avais promis, entre Athènes l'humaniste et Sparte la militariste, le choix des modernes est vite fait. Georges Brassens le justifiait déjà. Je sais que les guerriers de Sparte ne plantaient pas leurs épées dans l'eau. Athènes a eu ses raisons de ne pas aimer Sparte. À la fin du 5e siècle avant notre ère, elle perdit la guerre du Péloponnèse et son empire au profit d'une Sparte qui, très douée pour se saisir des opportunités, exerça l'hégémonie pendant une génération. Mais auparavant, c'est à Sparte que les Grecs avaient dû leur survie face aux Perses. On se souvient peut-être de la deuxième guerre médique, des hauts faits du roi spartiate Léonidas aux Thermopyles et de la victoire de Platée. La Grèce est à bien des égards redevable à la vocation guerrière que s'était fixée Sparte. Et Sparte, c'était une cité grecque, peuplée de Grecs, de Grèce, régie par des institutions singulières, certes, mais d'essence grecque. Ceux qui plus tard ont refabriqué le passé de la cité, qui, pour justifier la terreur de 1794, qui, pour prôner l'eugénisme nazi, ont entretenu un mirage spartiate. Tous d'ailleurs, sans avoir de pareilles intentions, nous sommes enclins à nous servir de Sparte comme d'un réservoir d'anecdotes morales. Comment résister à celle-ci ? Il était une fois un Spartiate à qui les magistrats venaient de refuser l'accès à une fonction supérieure. Eh bien, comment a-t-il réagi ? Il s'est réjoui. Quelle belle cité, a-t-il dit tout de même, que celle qui peut compter 300 hommes supérieurs à moi. On va tenter aujourd'hui de rester en deçà de la légende, d'aller au-delà de l'anecdote. C'est paradoxalement plus facile maintenant qu'on enseigne de moins en moins l'Antiquité.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nicolas Richer, bonjour.
Jean Lebrun, bonjour.
Ça fait plaisir, un agrégé comme vous, Gérard Collomb, de Lyon. Vous enseignez à l'École normale supérieure de Lyon. Pas de commentaires sur Gérard Collomb, je vois, pas très bien. On va passer directement à vos travaux sur Sparte. Vous êtes né à Athènes, vous ?
C'est exact.
Et vous intéressez à Sparte, donc tout petit déjà. En culotte courte, vous visitiez Sparte ?
J'ai effectivement visité Sparte dans mon jeune âge, mais j'ai aussi parcouru le reste de la Grèce.
Oui, je sais que à vos élèves étudiants de l'École normale supérieure de Lyon, vous ne faites que peu de cours et de séminaires sur Sparte pour garder le champ le plus large possible. Dites-nous où c'est Sparte, parce que plus personne ne connaît l'histoire de l'Antiquité, expliquez-vous, c'est une chance. Alors, plus personne ne sait peut-être où est Sparte.
Sparte est dans le Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est une péninsule qui est au sud de la Grèce balkanique et qui constitue ce que Strabon appelait l'acropole de la Grèce. Si le Péloponnèse peut être vu comme l'acropole de la Grèce, c'est parce qu'il rassemble toute une série de cités qui elles-mêmes ont joué, à l'époque où écrit Strabon, nous sommes au 1er siècle avant notre ère, qui ont joué un rôle essentiel dans l'histoire de la Grèce. Et parmi les cités péloponnésiennes, la plus importante d'un point de vue historique, à l'époque classique, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, a été certainement Sparte.
Mais au 6e, un peu avant, Sparte avait consenti un grand effort, vous racontez ça longuement dans votre livre Sparte, cité des arts, des armes et des lois qui vient de paraître chez Perrin pour conquérir la Laconie, la région au siège, au centre de laquelle elle est, et puis la Messénie, parce que c'était un vaste territoire avec des minerais, des ressources, la mer, des possibilités complémentaires.
Oui, alors l'état lacédémonien, ou ce qu'on appelle ainsi, Jean Ducas a pu parler du fantôme de l'état lacédémonien, l'état lacédémonien comprend d'une part la Laconie qui est au sud-est du Péloponnèse et d'autre part la Messénie qui est au sud-ouest du Péloponnèse, de l'autre côté de la chaîne du Tégét. L'ensemble comprend un territoire de plus de 8000 km², un département français actuel étant d'une superficie moyenne de 5500 km². Donc le territoire est assez vaste, mais il est aussi compartimenté. Et dans ce territoire compartimenté, on voit notamment des plaines et aussi des montagnes. Les plaines sont irriguées, comme celle de Laconie est irriguée par le Rotins et celle de Messénie est irriguée par le Pamisos.
C'est comme si on y était, Nicolas Richet. Mais les habitants... Alors, il y a les habitants des cités conquises et devenues alliées, ou des villages. Il y a aussi ceux qui cultivent la terre. Il y a toute une hiérarchie. Il y a le citoyen spartiate, et puis aussi les périèques et les zilotes.
Oui. Alors, le territoire laconien, donc du sud-est, a été contrôlé par des gens qui seraient des Doriens à partir du 8e siècle et peut-être, et ceux-ci sont partis à la conquête de la Messénie. Et au fur et à mesure qu'ils augmentaient leur emprise territoriale, ils ont aussi soumis les habitants des territoires qu'ils contrôlaient. Et on voit notamment mention de la soumission des habitants d'Élos, au sud de la Laconie, qui se sont vus imposer sans doute un statut d'inférieur et qu'on a appelé les zilotes. Cette même appellation, ce même statut, ont été diffusés ensuite dans l'ensemble des territoires conquis par les Spartiates. Les Périèques, eux, ont une position qu'on pourrait dire intermédiaire, puisque ce sont des hommes libres, comme les Spartiates, mais ce sont aussi des gens qui dépendent des Spartiates et qui, par exemple, obéissent aux décisions qu'ils prennent.
Alors, les décisions que prennent les citoyens Spartiates, comment les prennent-ils? Alors voilà, deux témoignages d'autorité. Jean-Pierre Vernant, Jacqueline de Romilly.
Dans le monde grec, la constitution de la cité comme type d'organisation politique, avec la notion d'un état, c'est-à-dire d'un groupe d'hommes qui constitue la communauté, qui constitue une collectivité, c'est cela que signifie le terme polis. Même dans l'état aristocratique, il y a d'une certaine façon la reprise, la transposition, l'approfondissement de cette notion d'égalité dont j'ai parlé dans un milieu d'aristocratie guerrière. Parce que cette égalité, elle représente les affaires publiques. Tout ce qui n'est pas intérêt privé de la famille est déposé au centre, placé en meso, c'est-à-dire devient l'objet d'un débat public et contradictoire entre tous ceux qui constituent la communauté civique.
Même si c'est une royauté, même si c'est un régime militaire, même si c'est un régime où les hommes vivent pour la guerre, il reste que c'est une cité libre qui a un sens aigu de la liberté des citoyens. Même un État comme Sparte était considéré comme fait d'hommes libres et responsables d'eux-mêmes. Alors ceci est le point commun entre les cités.
Alors même s'il y a deux rois, même s'il y a des caractères d'aristocratie guerrière, Aristote, expert en la matière, emploie pour Sparte le mot démocratie. Et il dit d'ailleurs que les meilleures constitutions, ce sont souvent celles qui mélangent les constitutions. Alors, deux, trois catégories de responsables importants, Nicolas Richet, à Sparte.
Oui, eh bien, nous venons d'avoir là deux appréciations de Jean-Pierre Vernant et de Jacqueline de Romilly qui, en fait, illustrent les appréciations qu'on pourrait porter sur le régime de Sparte et qui sont dues à la nature même, effectivement, des institutions de Sparte. Aristote, à la fin du IVe siècle, voit dans les institutions de Sparte un exemple de constitution mixte, ce qui s'explique par la coexistence d'institutions qui, par elles-mêmes, pourraient, si elles étaient seules à exister, donner à la cité un caractère particulier qui finalement n'est pas le sien, puisque des institutions diverses coexistent. Alors, il existe deux rois, vous l'avez dit. Sparte est donc une diarchie, et à l'époque classique, ces rois peuvent être vus surtout comme des magistrats, notamment des magistrats à fonction militaire. Ils ont aussi des prérogatives religieuses. Il existe aussi des gérontes qui sont un conseil de 28 membres et qui, pour partie au moins, sont apparentés au roi. Mais il existe aussi des éphores. 5 éphores qui sont les principaux magistrats de la cité. Leur nom même désigne le fait qu'ils sont des surveillants des actions menées par les citoyens.
Alors justement, expliquez-nous quand même la surveillance mutuelle particulièrement forte que on exerce à Sparte. On ne peut finalement, si j'ai bien compris votre livre, chez Perrin, on ne peut, Nicolas Richer, refermer la porte sur soi un peu le soir, qu'au bout de beaucoup d'années de formation, quand on a 30 ans et plus, qu'on a montré qu'on pouvait se dévouer pour le bien commun et qu'on a fait tout comme il fallait le faire, selon des rites, des habitudes qui sont surveillées de près.
Oui, alors il existe effectivement près du local des efforts un sanctuaire qui est celui de Phobos. Phobos, c'est la peur ou l'effroi, c'est un nom masculin. Phobos, d'une part, c'est une entité qui peut effrayer les ennemis, mais c'est aussi une entité qui peut dompter les citoyens pour le service de la cité. Et les citoyens, effectivement, vous l'avez dit, peuvent se surveiller mutuellement, puisque dans les Sicitia,
les Sicitia, ce sont des
les groupes de bancteurs.
Une quinzaine de membres, les citoyens, et on mange ensemble.
Voilà. Dans les Sicitia, en fait, les citoyens se surveillent mutuellement et ils rappellent en permanence les valeurs qu'il convient de respecter. Et ces valeurs sont notamment toutes imprégnées par l'intérêt collectif. Et l'éducation que vous évoquiez a justement pour finalité d'imprégner l'esprit des jeunes gens de telle sorte qu'ils soient eux aussi convaincus de la nécessité de servir la collectivité. Et Xénophon souligne que c'est une singularité de Sparte, puisque à partir de l'âge de 7 ans, sans doute, les jeunes gens sont formés collectivement et ils ne sont pas confiés à des pédagogues en fonction de leur appartenance familiale.
Enfin, néanmoins, même si la formation physique est très importante, tu ne dois pas avoir de vêtements trop luxueux, ce qui fait ta caractéristique, c'est ton corps sain. Il y a une éducation à l'intelligence aussi. C'est une cité, dites-vous, des arts et pas seulement des armes.
Tout à fait. Et alors, c'est une cité des arts, des armes et des lois. Alors, c'est une cité des arts, notamment, clairement, à l'époque archaïque, au 7e, au 6e siècle, jusqu'au moment où, peut-être, vers le milieu du 5e siècle, s'est produit une espèce de raidissement et un accroissement de l'austérité. Mais après même ce moment, les Spartiates ont continué à connaître leurs classiques, pourrait-on dire, même si c'était des classiques que nous dirions archaïques. Ils connaissaient les textes d'Homère, ils connaissaient l'Iliade, ils connaissaient l'Odyssée, ils connaissaient Hésiode, ils connaissaient aussi leurs propres poètes, comme Terpandre, Tyrté ou Alcman. Et donc, la connaissance de ces œuvres était pour eux essentielle et leur fournissait un cadre de référence.
Tyrté, puisque vous le citez, il y a donc des sources spartiates sur Sparte. Il n'y a pas que Xénophon, Thucydide, Hérodote et plus tard, il y a des poètes locaux, mais alors d'un style un peu particulier, si j'en crois cet extrait de l'heure de culture française.
Le régime spartiate se prêtait particulièrement au développement du lyrisme. Hymne de guerre, de victoire et de reconnaissance. Chant où, dans les repas en groupe, s'exaltait le goût lacédémonien pour le courage et la vertu. Tyrté, cet infirme était bien un entraîneur d'hommes, et les chants héroïques qu'il composa menèrent les Spartiates à la victoire. « Allez, enfants de Sparte, disait-il, jeunesse citoyenne, couvrez votre gauche du bouclier, lancez le trait avec audace et n'épargnez pas votre vie, car tel n'est pas l'usage de Sparte. » Il s'écriait, que chacun, bien campé sur ses deux jambes, les pieds rivés au sol, mordant sa lèvre, demeure immobile, les cuisses, les jambes et les épaules bien couvertes par le ventre du large bouclier. Et décrivant la bataille, il ajoutait « Pied contre pied, bouclier contre bouclier, l'aigrette du casque froissant l'aigrette, que les poitrines se pressent, que les guerriers se choquent, du tranchant de l'épée et de la pointe de la lance. »
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Aujourd'hui, Sparte, à l'occasion de la parution chez Perrin d'un grand livre fort bien mis en page, fort bien présenté, de Nicolas Richer. Je suis heureux de vous apprendre quelque chose. Voici les chœurs de chambre de Pecs dans une œuvre de Lajos Bardos, spécialiste de chant choral, mais en Hongrie, ça s'intitule « Les enfants de Sparte ». Enfants, les Spartiates apprennent à se protéger avec le bouclier qu'ils tiennent au bras gauche, protégeant ainsi le côté droit de leur voisin de gauche. Et il ne s'agit pas de sortir du rang et de s'illustrer individuellement, Nicolas Richer.
Parfaitement. Vous venez de nous rappeler un texte de Tirté en traduction française. C'est un texte parénétique qui... qui incite à se dévouer pour la cité. Et il y est rappelé notamment que les soldats doivent combattre bouclier contre bouclier. C'est une évocation en fait d'une conséquence de ce qu'on appelle la réforme politique qui a diffusé dans le corps des citoyens la capacité matérielle à s'armer lourdement en armes de bronze et qui a eu pour conséquence que les citoyens combattants de façon solidaire sur le champ de bataille, ont pu affirmer leur importance politique. Dans le même texte de Tirté, il est affirmé aussi que celui qui fait défaut doit être rejeté de la collectivité.
Comme un trembleur.
Comme un trembleur, hein, très ça. Et le mot apparaît parfaitement chez Tirté dès le 7e siècle. Et on voit encore chez Xénophon, au début du 4e siècle, l'importance des tres santes.
Alors, on procède, vous savez, nous, par ellipse. Nous sommes maintenant au 5e siècle, 490. Les Perses de Darius menacent la Grèce, débarquent à Marathon. Sparte a une telle réputation militaire qu'on pense bien évidemment, du côté des cités menacées, à faire appel à elle. Alors l'assemblée à Athènes est tumultueuse.
Mourir tous, mais avec gloire. Considérons plutôt la réalité. Nous sommes 1 contre 10. Je pense qu'il serait sage d'engager des pourparlers avec Darius.
Certes, s'il nous faut supporter seul le choc des assaillants, la résistance s'avère inutile. Mais pourquoi sembler désespéré? Vous ne croyez pas qu'avec l'aide de Sparte, la Grèce, une fois encore, sera sauvée?
Et qui nous garantira l'aide de Sparte?
Elle est comme nous, menacée. Après Athènes, Sparte subira le même sort que nous. Et après Sparte, toute la Grèce. Les Spartiates le savent.
Les Spartiates se défient de nous.
C'est vrai. Mais il y a un homme qui a leur confiance et qui saura bien les convaincre. Cet homme est demeuré au-dessus de tout soupçon. Son nom est Philippides.
Alors voici que les Athéniens envoient Philippides, qui est surtout un coureur de fond, plus encore qu'un diplomate. Il sait aller vite, mais les Spartiates sont des gens prudents et pas disposés au sprint.
Athènes garde l'espoir de voir Sparte à ses côtés.
On ne peut pas donner suite à l'appel des Athéniens, du moins en ce moment. Tant que la lune ne sera pas nouvelle, aucun de nous ne consentira à prendre les armes. Telle est, selon les oracles, la volonté des dieux.
Oui, s'il faut en croire les oracles, c'est que les dieux veulent la complète destruction de la Grèce.
Alors ça, c'est intéressant, Nicolas Richer, parce que, bien sûr, ils font l'admiration des modernes à cause de leur capacité militaire, des efforts qu'ils consentent dans ce domaine. Mais c'est l'altérité pour nous, Sparte. Les égards dus aux dieux passent avant les égards dus aux hommes. Les facteurs surnaturels priment sur les données naturelles. On ne part pas à la guerre comme ça.
Effectivement, et en 490, quand les Athéniens envoient le héros Philippides, qui est un hémérodrome, quelqu'un qui court tout le jour, qui est capable de courir 220 kilomètres, les 220 kilomètres qui parcourent, le long des 220 kilomètres qui parcourent Athènes de Sparte, et de revenir à pied, quand les Athéniens donc envoient Philippides à Sparte, les Spartiates refusent de répondre par une aide immédiate, parce qu'ils doivent finir de célébrer les Carneia, qui sont pour eux une grande fête. Et cela peut s'expliquer parce qu'ils veulent absolument respecter l'ordre du monde. Et pour assurer la victoire de leurs armes, ils estiment nécessaire de pratiquer des rituels selon un calendrier bien fixé. Et donc, en l'occurrence, ils seraient gênés d'envoyer des troupes avant d'avoir célébré les Carneia en 490.
Ils participeront que sur le tard à la première guerre médique. Je vous ai promis des ellipses. 10 ans plus tard, 480 avant notre ère, la deuxième guerre médique. Le roi spartiate Léonidas s'illustre dans sa résistance aux Perses, maintenant commandés par Xerxès aux Thermopyles. Les Spartiates jouent un rôle essentiel dans la victoire finale de cette deuxième guerre médique, Platée. Je fais aussi une ellipse, nous voilà maintenant en 404, Ligue du Péloponnèse. Alors ça c'est le groupe lacédémonien, Sparte, qui va l'emporter sur la Ligue de Délos, le groupe athénien, et pendant une génération, hégémonie spartiate, jusqu'à la défaite très importante pour le devenir de Sparte de 371, la défaite de Leuctre. Vous expliquez dans Sparte chez Perrin, Nicolas Richer, toutes les nouveautés que les adversaires de Sparte, les Thébains, avaient mis au point en matière de tactique et qui expliquent assez largement le déclin des forces militaires spartiates. Mais la question que je voulais vous poser maintenant et qui a beaucoup interrogé les auteurs de l'Antiquité, pourquoi cette cité si importante a-t-elle connu pareille chute?
Sans doute pour des raisons démographiques. Et en fait, la victoire de 404 elle-même est remarquable, étant donné que
c'était Sparte, la victoire sur Athènes.
La victoire de 404 sur Athènes, oui, est remarquable, étant donné que la population de Sparte a dû diminuer au cours du 5e siècle.
On parle de la population des citoyens.
La population des citoyens de Sparte. Il pouvait être peut-être 10-8 000 au début du 5e siècle, et l'évolution ayant été ce qu'elle a été, il n'était plus que 1200 en 371. Et en 404, déjà, la population a beaucoup diminué. Malgré cela, Sparte avait construit un système d'alliance tel qu'elle a pu l'emporter, et également, Sparte a réussi à organiser la population du territoire lacédémonien de telle façon que les effectifs sur lesquels elle avait une emprise directe, constituée notamment de Périèques, lui permettaient de faire très bonne figure sur les champs de bataille. Et donc, Sparte, effectivement, est victorieuse d'Athènes en 404. Ensuite, elle continue à affirmer son importance pendant une génération, au début du IVe siècle, en Grèce, jusqu'à cette défaite brutale.
Et moi, j'ai une explication, parce que c'est un réservoir d'anecdotes morales, Sparte. Et tenez, votre peut-être maître Pierre de Margne, professeur à la Sorbonne, naguère, si je ne me trompe, à l'heure de culture française, avait une explication.
Sparte connut d'énormes fortunes. Au temps de l'hégémonie, l'or de l'allié perse avait coulé à flot. Les dirigeants s'étaient enrichis dans le gouvernement des villes sujettes. Les femmes, surtout, riches héritières, avaient entre les mains les 2/5 du sol laconien. Sparte, dit Aristote, était, comme toute nation militaire, une véritable gynécocratie. Et comme Lycurgue, le législateur, qui avait si rudement organisé la vie des hommes, ne s'était pas préoccupé des femmes, elle vivait dans le luxe et le dérèglement. Lors de l'invasion des Thébains, loin de se conduire en femmes spartiates, loin d'aider à la défense, elles firent naître dans la ville plus de troubles que l'ennemi lui-même. L'amour de l'argent allait perdre Sparte, comme l'avait prédit un vieil oracle.
Alors on a entendu ça tant et tant de fois la perte de la vertu, l'amour, du lucre, l'abaissement moral. Oui. Il y avait ça déjà chez Xénophon.
Oui, l'idée selon laquelle Sparte a été victime de la gynécocratie est une idée qui est particulièrement exprimée par Aristote et qui peut s'exprimer par le système d'héritage qui était en usage à Sparte. Comme il était rappelé à l'instant, d'après Aristote, les 2/5 du territoire de Sparte ont pu être contrôlés par des femmes. Et sans doute, naturellement, d'abord par des femmes de l'élite sociale, qui ont pu concentrer dans leurs mains une grande partie des avoirs des Spartiates et posséder beaucoup de terres. Une autre question est celle d'une conséquence de la victoire de 404. Parce que la victoire de 404 a provoqué l'afflux à Sparte de grandes quantités de métaux précieux que les Spartiates ont eu du mal à gérer.
Oui, parce qu'ils n'étaient même pas habitués aux monnaies, puisqu'ils vivaient un peu en autarcie. Mais attendez, professeur, il y a quand même une explication sociale, permettez-moi. Ils n'avaient qu'à faire appel à davantage de périèques, voire aux ilotes qu'il leur arrivait d'utiliser militairement. Ce tout petit groupe de citoyens ne tolérait pas la mobilité, l'innovation, vivait dans une tension totale avec leurs inférieurs.
Il est vraisemblable qu'en fait, les citoyens tenaient en fait à leurs privilèges. Et on détient plus facilement des postes prestigieux dans un corps civique réduit que dans un corps civique nombreux. Et ce peut être une raison pour laquelle les Spartiates n'ont pas intégré au corps civique des gens qui avaient des capacités, comme effectivement des périèques, des capacités militaires qu'ils pouvaient utiliser, mais à qui ils ne voulaient pas accorder la plénitude des droits des Spartiates.
Donc l'immobilité, c'est suicidaire. Si je veux tirer une leçon morale...
Oui, la leçon que les Spartiates serait plus une leçon pratique qu'une leçon morale, sans doute. Ils pouvaient se satisfaire de ce que leur système politique continuait à exister, à être efficace, et c'est seulement dans les années 330 qu'ils ont vraiment renoncé à contrôler la Messénie, dont ils avaient en fait perdu le contrôle en 369, et qu'ils ont admis qu'ils tenaient une position seconde désormais dans le monde grec.
Vous racontez bien le crépuscule de Sparte avec certains Spartiates qui deviennent des mercenaires.
Oui, et c'est illustré par le cas même d'Agésilas.
C'est un roi
de Sparte au début du 4e siècle et qui a fini en travaillant comme mercenaire en Égypte, et il est mort en Marmarique sur la route du retour.
Eh bien, que de noms vous nous avez servi, c'était un plaisir, Nicolas Richet, Sparte, cité des arts, des armes et des lois chez Perrin. Je vous voyais regarder très précisément la pendule. Le mot précision, comment ça se dit à Sparte?
Comme en grec, l'akribeia.
Oui. Et le mot exercice, comment ça se dit?
L'askésis.
Voilà. Et le mot service public, enfin je veux dire l'ENS à Lyon ou Radio France.
Ah, si vous voulez me faire dire que les Spartiates, effectivement, ont pour principe cardinal de servir la collectivité, je vous dirais que ce principe prévaut encore dans certaines institutions de la République.
Et ça s'appelle un exercice panhérétique.
Ah, mon propos pourrait être effectivement parénétique si je vous exhortais à servir la République.
Voilà. Permettez-moi de faire juste le générique à la réalisation Sonia Leglen, Tristan Gratalon pour la technique. La préparation, c'était Franck Olivard et Frédéric Martin.